Chapitre 1. Un fondement biblique pour agir avec assurance. Il est un ministère commun à tout chrétien, à savoir ressembler à Jésus-Christ. La Bible dit clairement que notre Père poursuit un but primordial dans nos vies dès l'instant de notre conversion, nous transformer à l'image de son Fils. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 19. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Que nous le sachions ou non, que nous le voulions ou non, que nous le croyions ou non, il en est ainsi. Évidemment, notre marche sera plus facile et nos progrès plus grands si nous acceptons cela et le recherchons. Le chrétien qui prétend n'avoir aucun ministère ressemble à un prince qui se prendrait pour un mendiant. Celui qui, au contraire, insiste sans cesse sur son ministère, évitant ainsi la responsabilité globale d'ambassadeur du royaume, ignore qu'au-delà des dons et des ministères bien réels et variés, il en est un qui englobe tous les autres, suivre le maître, faire ce qu'il fait, dire ce qu'il dit. S'il en est bien ainsi, existe-t-il dans l'Écriture un résumé des œuvres de Christ? Est-il possible de cerner le contenu du ministère de celui qui a le plus influencé l'humanité? En a-t-il parlé lui-même? Si c'est le cas, le pragmatisme et la sagesse devraient nous convaincre de l'écouter attentivement plutôt que de chercher nos propres définitions. Le contenu du ministère de Jésus nous est décrit alors que Jean-Baptiste, de sa prison, envoie ses disciples pour s'enquérir de l'essentiel. Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Voici la question de millions d'hommes et de femmes au travers des siècles. Nous pourrions l'amplifier ainsi. Es-tu Emmanuel? Dieu est-il venu chez les hommes? Sur notre petite planète? Avons-nous un exemple parfait à suivre? Es-tu le sauveur du péché, de la maladie, de la mort, du diable et de l'enfer? Voici la réponse de Jésus. Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Évangile de Luc, chapitre 7, versets 20 à 22. Jésus parle de ses œuvres, reflet de sa personne, témoignage de son message. À quatre reprises, il mentionne ici guérison et miracle, puis il évoque les résurrections et termine par l'annonce de la bonne nouvelle. Jésus, par la croix, va donner à cette bonne nouvelle sa dimension complète et universelle. Et, soulignons-le clairement, une guérison n'est rien en comparaison du salut éternel d'un être humain. Mais, cela dit, nous devons laisser toute sa force à ce texte. Si Jésus est réellement notre maître, et que nous voulons être ses disciples, et non ceux d'un Jésus imaginaire remodelé à nos convenances, nous devons reconnaître l'importance énorme qu'il donne lui-même à l'exercice du ministère envers les malades de tout genre. Ce bref fondement posé, nous étudierons à sa lumière l'une des promesses les plus exaltantes que Jésus nous ait laissées. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 12. Cette parole est glorieuse. Cependant, une foule d'interprétations erronées ont tenté de la ternir, mais celle-ci ne résiste pas à une lecture attentive. Mentionnons-les pour mieux souligner la portée de cette promesse. Certains proclament aujourd'hui, en créant des hôpitaux chrétiens, en voyageant sur tous les continents, en parlant à des millions de personnes sur les ondes, nous faisons des œuvres plus grandes que celles de Jésus. Dans un sens, cela est vrai, mais rappelons qu'il n'a pas seulement dit « Celui qui croit en moi fera de plus grandes œuvres que je n'ai faites », mais « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes ». Nous ne pouvons donc utiliser la deuxième partie du verset pour évincer la première. Un jour, des témoins de Jéhovah sont venus à ma porte. Deux jeunes filles avaient déjà passé une première fois. Maintenant, un responsable remplaçait l'une d'elles. Parlant de ce verset, ils insistaient sur les œuvres plus grandes que leur mouvement accomplissait aujourd'hui. Je revenais alors d'une convention au Bénin et leur racontais le témoignage de la résurrection d'un enfant de 2 ans, nommé Zacharie. Il était mort suite à une rapide poussée de fièvre aux environs de 15 heures. Sa mère avait alors convoqué plusieurs femmes responsables dans l'église avec lesquelles elle avait longuement intercédé. L'enfant était froid et ne respirait plus depuis des heures. Les villageois étaient déjà au courant du décès lorsque, vers 20 heures, il revint à la vie. Ce témoignage, dont la population était garante, fut apporté devant quelque 5 000 personnes par la maman tenant l'enfant dans ses bras. Bien qu'orateur dans la convention, je ne fus pour rien dans ce miracle, mais je m'entretins personnellement avec la maman pour vérifier les faits. Quand c'est possible, et avec leur accord, vous trouverez les adresses des personnes concernées en note pour confirmation. Les pasteurs m'attestèrent que, dans les 120 églises dont ils sont responsables, les résurrections sont rares, mais se produisent de temps à autre, souvent en réponse à la prière de simples chrétiens. J'interpellai donc mes interlocuteurs. Vous n'avez que 3 possibilités face à ce témoignage. Soit m'accuser de mensonge, soit attribuer ce miracle à Dieu, ou encore au diable. Après un temps de silence, le responsable me répondit : Je sais que vous ne nous avez pas menti, et Dieu ne fait plus ce genre de miracle aujourd'hui. C'est donc le diable qui a ressuscité cet enfant. Je me suis alors tourné vers la jeune fille, cherchant à faire appel à son discernement. Pouvez-vous saisir ce que vous venez d'entendre? Pour défendre la doctrine de votre mouvement, votre responsable doit attribuer à Satan un pouvoir que jamais l'Écriture ne lui donne. Pourtant, Jésus a dit : Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que j'ai faites. Qu'allez-vous choisir, votre mouvement ou Jésus? J'ai senti qu'elle était touchée. Une deuxième interprétation entendue parfois est la suivante. Nous ferons les œuvres que Jésus a faites si nous travaillons dans les contrées lointaines, peu développées et dépourvues de soins médicaux. Gloire à Dieu pour tous les miracles et guérisons qu'il effectue aux extrémités de la terre. Mais Jésus n'a pas lié sa promesse à la situation géographique ou à la densité des médecins et des hôpitaux par habitant, mais à la foi en lui. Dieu a la même compassion pour l'Occident que pour les pays en voie de développement. Il est vrai que beaucoup d'Européens ont vu leur foi grandir alors qu'ils assistaient à des conversions et des guérisons lors d'un séjour sur le continent africain. Mais on ne perd pas l'onction quand on reprend l'avion. Dieu est disposé à agir partout dans le monde, même dans notre lieu de naissance. Je l'ai expérimenté dans mon village natal où j'étais invité pour une campagne d'évangélisation. En terminant le message, j'ai proposé aux malades qui désiraient la prière de s'approcher après la réunion. J'ai dit ouvertement qu'en Afrique, non loin de 50 personnes pour le même auditoire saisiraient l'occasion, mais que là, probablement 2 ou 3 seulement le feraient. Effectivement, 3 personnes demandèrent la prière. Il y avait un homme qui souffrait d'une sciatique. Il ressentit immédiatement une légère amélioration et s'en retourna à la maison. Là, il trouva sa tante alitée et fiévreuse. Il lui expliqua qu'on venait de prier pour lui et qu'ayant reçu un message sur la prière pour les malades, il était disposé à le faire pour elle. Elle accepta la proposition de son neveu avec joie et fut instantanément guérie. Le lendemain, ils vinrent tous deux témoigner au micro de ces faits. Pour ma part, ce fut comme un clin d'œil du Seigneur. Il aime tous les hommes de la même manière et il sait encourager ceux qui se mettent en route. S'il y a plus de guérisons en Afrique, cela provient avant tout du nombre plus élevé de personnes qui les demandent. Cessons de croire et d'affirmer que Dieu n'agit pas ou peu en Occident. Nous verrons alors Dieu guérir jusque dans nos hôpitaux universitaires, nos laboratoires futuristes, juchés dans des tours de verre et nos autres sites sophistiqués. Une troisième interprétation très commune est la suivante. Nous ferions les œuvres que Jésus a faites si nous vivions au temps des premiers apôtres. Nous serions donc nés 2000 ans trop tard. Quel dommage! Heureusement, Jésus n'a pas lié cette promesse à une époque définie de l'histoire, mais toujours à la simple foi en lui. Un pasteur expliquait un jour à un gitan que Dieu ne faisait plus de miracles aujourd'hui. Celui-ci lui demanda alors, Que faites-vous quand une personne a le cancer dans votre église? Nous prions pour elle en disant, Seigneur, guéris-la, si c'est ta volonté. Et le gitan de répondre, À supposer que Dieu la guérisse, comment appelleriez-vous cela? Mais voici l'interprétation secrète de la plupart des chrétiens contemporains. Je ferais les œuvres que Jésus a faites si j'avais un grand ministère. Si j'étais un évangéliste renommé, un grand pasteur, un prophète, un apôtre, un docteur peut-être, mais cette promesse ne me concerne pas. Jésus a dit, Celui qui croit en moi. Il n'a pas dit, Celui qui est apôtre, celui qui a fait une école biblique ou celui qui a 20 ans d'expérience chrétienne. Comme pour en relever l'extrême importance, il a repris cette promesse juste avant son ascension, en soulignant que ces signes accompagneront non seulement les apôtres, mais bien ceux qui auront cru, conformément à l'évangile de Marc, chapitre 16, versets 15 à 18. L'histoire du réveil, comme les innombrables témoignages, à l'instar de la résurrection citée plus haut, ne font que confirmer ce fait. Finalement, relevons une cinquième interprétation, paraissant bien subtile. Oui, bien sûr, Jésus voudrait faire de grands miracles par nous. Personnellement, j'aimerais tellement faire les œuvres que Jésus a faites. Mais mon église n'est pas prête. Ma ville n'est pas prête. Mon pays n'est pas prêt. Ma culture n'est pas prête. Penchons-nous encore une fois sur cette promesse. Elle n'est pas collective, mais au contraire tout à fait personnelle. Jésus n'a pas dit ceux qui croient en moi, mais celui qui croit en moi. Celui comporte le sens masculin et féminin de disciple. Quelle est donc l'interprétation correcte de ce passage? Je vous propose celle-ci. Lisez-la avec une grande attention. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Lorsque nous renonçons à soumettre l'Écriture à nos interprétations particulières, et ne cherchons plus à lire entre les lignes, mais bien plutôt à lire les lignes elles-mêmes, la puissance et la dimension extraordinaire de la promesse prennent toute leur valeur.